Mais certains combats laissent le vainqueur plus embarrassé que le vaincu. Prenant en main le trésor, Valois n'empoignait que du vent. Les envoyés qu'il dépêchait dans les bailliages et prévôtés, afin d'y récolter quelques fonds, s'en revenaient la mine piteuse. Tous avaient été précédés par les envoyés de Marigny, et il ne restait plus un denier au coffre des prévôts, lesquels avaient soldé les créances autant qu'ils le pouvaient, afin de présenter des comptes bien nets. Et tandis qu'au rez-de-chaussée de son hôtel, toute une foule se chauffait et s'abreuvait à ses frais, Valois, dans son cabinet, au premier étage, recevant visiteur après visiteur, cherchait les moyens d'alimenter non plus seulement ses caisses, mais encore celles de l'État. Une matinée de la fin de cette semaine-là, il était enfermé avec son cousin Robert d'Artois. Ils attendaient un troisième personnage.
« Ce banquier, ce Lombard, vous l'avez bien mandé pour ce matin, » dit Valois. « Je vous avoue que j'ai quelque hâte de le voir paraître. »«
Eh, mon cousin, » répondit le géant,
« croyez que mon impatience n'est pas moins grande que la vôtre, car selon la réponse que vous donnera Ptolémée, vieux brigand s'il en est, mais qui s'y entend assez en finance, je m'apprête à vous présenter une requête. »«
Laquelle ?»
Mes arrérages, mon cousin, les arrérages des revenus de ce comté de Beaumont qu'on m'a octroyé voilà 5 ans pour feindre de me payer l'Artois, mais dont je n'ai pas encore vu les lisières. C'est plus de 20 000 livres à cette heure qu'on me doit, et sur quoi ce Ptolémée me prête à usure. Mais puisque vous avez maintenant disposition du trésor... »
Valois leva le bras au ciel.
« Mon cousin, » dit-il, « la tâche d'aujourd'hui consiste à trouver le nécessaire pour expédier Bouville vers Naples. » Car le roi me rebat l'oreille sans arrêt de ce départ. Ensuite, la première affaire dont je m'occuperai sera, je vous en fais la promesse, la vôtre. »
À combien de personnes depuis 8 jours n'avait-il pas donné la même assurance?
Mais le tour que Marigny vient de nous jouer sera le dernier, je vous le promets aussi. Le chien rendra gorge, et vos arrérages, nous les prendrons sur ses biens. Car où croyez-vous que soient passés les revenus de votre comté?
Dans sa cassette, mon cousin, dans sa cassette! Et Monseigneur de Valois déambula à travers son cabinet, exhala une fois de plus ses griefs contre le coadjuteur, ce qui était manière d'éluder les demandes. Marigny, à ses yeux, portait la responsabilité de tout. Un vol avait-il été commis dans Paris? Marigny ne tenait point en main les sergents du guet et peut-être même partageait avec les malfaiteurs. Un arrêt du Parlement défavorisait-il un grand seigneur? Marigny l'avait dicté. Petits et grands maux, la voirie boueuse, l'insoumission des Flandres, la pénurie du blé... n'avait qu'un seul auteur, qu'une seule origine. L'adultère des princesses, la mort du roi et même l'hiver précoce étaient imputables à Marigny. Dieu punissait le royaume d'avoir si longtemps toléré un si malfaisant ministre. D'Artois, d'ordinaire bruyant et hâbleur, regardait son cousin en silence et sans un instant se lasser. En vérité, pour quelqu'un dont la nature coulait un peu de même fontaine, Monseigneur de Valois avait de quoi fasciner. Étonnant personnage que celui de ce prince à la fois impatient et tenace, véhément et retors, courageux de son corps mais faible devant la louange, et toujours animé d'ambitions extrêmes, toujours lancé dans de gigantesques entreprises, et toujours échouant par manque d'une appréciation juste des réalités. La guerre était mieux son affaire que l'administration de la paix. À l'âge de 27 ans, mis à part son frère, à la tête des armées françaises, il avait ravagé la Guyenne en révolte. Le souvenir de cette expédition le laissait à jamais grisé. À 31 ans, appelé par le pape Boniface et par le roi de Naples pour combattre les Gibelins et pacifier la Toscane, il s'était fait délivrer des indulgences de croisade, en même temps que les titres de vicaire général de la chrétienté et de comte de Romagne. Or, sa croisade, il l'avait employée à rançonner les villes italiennes et à extraire des seuls Florentins 200 000 florins d'or pour leur consentir la grâce d'aller piller ailleurs. Ce grand seigneur mégalomane montrait un tempérament d'aventurier, des goûts de parvenu et des volontés de fondateur de dynastie. Aucun sceptre ne se trouvait libre dans le monde, aucun trône vacant, sans qu'aussitôt Valois n'étendît la main, et sans jamais de succès. Maintenant, à 44 ans révolus, Charles de Valois s'écriait volontiers
« Je ne me suis tant dépensé que pour perdre ma vie, la fortune toujours m'a trahi !»
C'est qu'il considérait alors tous ses rêves écroulés, rêves d'Aragon, rêves d'un royaume d'Arles, rêves byzantins, rêves allemands, et les additionnait dans le grand songe d'un empire qui se fût étendu de l'Espagne au Bosphore et, pareil au monde romain, 1000 ans auparavant, sous Constantin. Il avait échoué à dominer l'univers. Au moins lui restait-il la France où déployer sa turbulence.
Croyez-vous vraiment qu'il accepte, votre banquier ? Demanda-t-il brusquement à D'Artois.
« Mais oui, il exigera des gages, mais il acceptera. »«
Voilà donc où je suis réduit, mon cousin, » dit Valois avec un grand désespoir qui n'était pas fin. « À dépendre du bon vouloir d'un usurier siennois pour commencer à remettre quelque ordre en ce royaume !»